Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saferiol 94.2, l'émission qui compte, avec Pierre à la technique, Sophie au micro. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien, nous voici de nouveau là pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les fées. Depuis les moires grecques devenues les parcs dans le monde romain, jusqu'aux fées marraines de Cendrillon ou de la Belle au bois dormant, en y ajoutant les enchanteresses comme Mélusine et Viviane, il y a vraiment beaucoup à dire sur les fées. Commençons par les plus antiques. Les déesses de la destinée. Les Fata, les trois parcs de leur nom romain. Le mot parc vient de parcae qui veut dire épargner. Elles seraient les filles de Zeus pour les Grecs, Jupiter pour les Romains et Héra, Junon, ou de Jupiter et Thémis, la déesse de la justice. Elles vivent dans les régions olympiennes, elles sont proches de leurs sœurs, les Heures, et elles veillent non seulement sur le sort des mortels, mais encore sur le mouvement des sphères célestes et l'harmonie du monde. Chez les Romains, elles sont représentées sous la forme de trois femmes au visage sévère couronnées de narcisses. Et on leur rendait de nombreux cultes parce que, comme le dieu Apollon, on pensait qu'elles pouvaient prédire l'avenir. Ces trois sœurs qui sont elles, il y a Clotho, la fileuse, la moins vieille des trois, c'est elle qui fabrique le fil de la destinée humaine. L'Akésis, son nom signifie le sort, l'action de tirer au sort, c'est celle qui va dérouler le fil et le mettre sur le fuseau. Et Atropos, qui elle coupe impitoyablement le fil de la destinée de chaque mortel. Alors l'Akésis est toujours représentée entourée de nombreux fuseaux et Atropos, eh bien, entouré de pelotons de fil qui sont de grosseurs différentes suivant que la destinée de ce mortel a été longue ou courte. Au départ, chez les Romains, il n'y avait qu'une seule déesse de la destinée, une seule parque, Fata, et puis ils ont été contaminés par les Grecs et elles sont devenues trois. Alors, ces Fata ont pour héritières nos fées, mais il y a aussi chez les fées, notamment qui apparaissent au Moyen-Âge, un caractère érotique. Ce sont souvent, non pas de vieilles femmes, mais de très jolies filles séduisantes et qui vont souvent s'unir à des mortels. Alors cet aspect séduisant et érotique, elle l'aurait hérité des nymphes. Les nymphes qu'on appelait parfois dans le monde romain les fatuae, qui sont des femmes de la forêt et qui sont effectivement très belles. Et voici tout de suite une première histoire où vous allez voir l'héritage de ces trois femmes dans des personnages des trois fileuses. C'est un conte de Grimm. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Eugénie et qui vivait avec sa mère. Elles étaient très pauvres et la mère d'Eugénie louait ses bras dans les fermes des environs. Elle travaillait dur. Et lorsqu'elle revenait le soir, elle trouvait sa fille qui était là à rêvasser au prince charmant. Et en partant le matin, elle lui avait laissé une grande quantité de lin à filer. Lorsqu'elle rentrait le soir, elle voyait qu'Eugénie n'avait pas touché au lin. Elle ne savait même pas se servir d'un rouet. Alors qu'à cette époque-là, si une jeune fille voulait espérer se marier, eh bien, il fallait qu'elle sache filer. Et Eugénie disait toujours à sa mère, « Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de savoir filer parce que de toute façon, je vais me marier avec un prince. » La mère, tous les soirs, se mettait en colère et elle disait à sa fille, « Mais c'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça à ne rien faire et à rêvasser toute la journée. Mets-toi au travail. » Mais le lendemain, lorsqu'elle revenait le soir, lorsqu'elle revenait exténuée, eh bien, sa fille n'avait rien fait. Et voilà qu'un soir où la mère était particulièrement épuisée, quand elle est arrivée, qu'elle a vu sa fille toute pomponnée, qui rêvassait vers la fenêtre, le lin entassé. La mère a perdu patience, elle s'est mise à crier, elle a dit à sa fille, « Eh bien, si c'est comme ça, ton prince charmant, tu vas aller le chercher toi-même. » Et elle a voulu la mettre dehors, et Eugénie s'est mise à pleurer, et elle résistait, elle disait à sa mère, « Mais moi, non, il faut que je reste ici, je ne sais pas où aller, s'il te plaît. » Elle criait, elle pleurait. À ce moment, la reine est passée dans son carrosse. Elle a vu cette belle jeune fille, ses yeux pleins de larmes, elle a entendu des cris. Elle a fait arrêter sa voiture et elle est descendue. Elle s'est enquise de ce qui se passait. Alors, la mère n'a pas osé dire à quel point sa fille était paresseuse. Elle a dit, mais c'est que ma fille peut toujours filer, mais moi, je suis pauvre. Je ne peux pas lui fournir du lin comme cela, sans arrêt. Et c'est pour ça que nous nous disputons. Oh, a dit la reine, mais moi, rien n'est plus doux à mon oreille que le bruit d'un rouet en train de tourner. Je vais emmener votre fille au palais et là, elle aura tout le lin qu'elle voudra. Elle a fait de la place dans son carrosse et elle a demandé à Eugénie de s'installer. Eugénie est montée dans le carrosse et sous l'œil inquiet de la mère, fouette cochée, la voiture est partie en direction du château. Quand elles sont arrivées au château, la reine a conduit Eugénie dans une tour de 3 étages. Et chaque étage était rempli, depuis le sol jusqu'au plafond, de lin à filer. Et dans la pièce du bas, il y avait un rouet. Eh bien, tu vois, tu vas filer tout ce lin, et si le travail est bien fait, quand tu auras terminé, tu épouseras mon fils, le prince, parce que ton travail te servira de dot. Et pour tes repas, on t'apportera à manger par le passe-plat que voici. Je reviendrai dans 3 jours pour voir comment avance l'ouvrage. Et la reine est partie, Eugénie s'est retrouvée seule dans la tour, devant ces montagnes de lin à filer. Elle ne savait pas quoi faire, elle n'avait pas la moindre idée comment elle pourrait s'en sortir. Alors elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Pendant 3 jours, elle n'a fait que pleurer. Enfin, pleurer et puis dévorer les délicieux repas qu'on lui apportait matin, midi et soir par le passe-plat. Quand la reine est revenue, au bout de 3 jours, elle a vu que l'ouvrage n'était même pas commencé. Elle a demandé à Eugénie qu'est-ce qui se passait. Alors la jeune fille a dit, c'est que de me retrouver là, toute seule, loin de ma mère, moi, je n'ai pas l'habitude et du coup, je n'ai pas pu travailler. Je n'ai fait que pleurer. « Ah, ma chère petite, je comprends, » a dit la reine, « mais maintenant, dès demain, il faut te mettre au travail. Et puis, tu sais, quand tu épouseras le prince, eh bien, nous inviterons, bien sûr, ta mère aux noces. Allez, courage, mets-toi au travail. » Et la reine est repartie. Et Eugénie n'a pas pu se mettre au travail puisqu'elle ne savait pas filer. Alors, elle est montée dans la pièce du 3e étage. Elle s'est penchée par la fenêtre qui donnait sur le chemin et là, elle se disait que c'était quand même bien triste. Elle pensait, se demandait si elle n'allait pas sauter, mais en même temps, elle était jeune et elle avait envie de vivre et elle pleurait. Et elle se lamentait, puis voilà qu'elle a vu arriver sur le chemin, en dessous d'elle, 3 vieilles femmes. Et il y en avait une qui avait un pied immense. La seconde, qui avait sa lèvre inférieure tellement grande qu'elle pendait jusqu'à son menton. Et la troisième avait un pouce qui était aussi grand qu'une main. Voyant ces 3 femmes bizarres, Eugénie n'a pas pu s'empêcher de rire, et elle pleurait, elle riait en même temps. Alors les 3 femmes ont levé la tête. Elles ont vu cette belle jeune fille toute blonde avec ses grands yeux bleus qui pleurait et qui riait. Et elles lui ont demandé qu'est-ce qu'elle faisait là et qu'est-ce qui lui arrivait. Eugénie leur a raconté. « Oh, eh bien, nous pouvons t'aider, » lui a dit celle des femmes qui avait le grand pied. Écoute, si tu nous fais passer pour tes cousines, que tu nous invites à ta noce, que tu nous fais asseoir à ta table, eh bien, nous pouvons filer tout ce lin pour toi. Bah, Eugénie, elle a accepté, elle a donné sa parole qu'elle les inviterait à la noce, qu'elle les ferait asseoir à sa table. Elle les a fait rentrer dans la tour par le passe-plat et les trois femmes se sont mises au travail. Celle qui avait le grand pied actionnait la pédale du rouet. Celle qui avait la grande lèvre mouillait le fil. Et celle qui avait le pouce, grand pouce, frappait le fil sur la table et le fil se cassait net et les chevaux tombaient au sol. Et elle travaillait vite, elle travaillait bien. Pendant ce temps-là, Eugénie regardait par la fenêtre qui donnait sur la cour du palais pour voir si la reine n'arrivait pas. Et au bout de 3 jours, les femmes avaient filé tout ce qu'il y avait dans la pièce du bain. Eugénie a dit « Vite, vite, il y a la reine qui arrive par ici !» Alors elle a aidé les trois femmes à se cacher dans la pièce du haut, dans le lin. La reine est entrée, Eugénie était assise au rouet et autour d'elle, il y avait tous les écheveaux filés. « Oh, mais c'est magnifique !» a dit la reine. « Mais comme ce, quel bel ouvrage tu fais là ! Oh, si tu continues comme ça, eh bien, bientôt, ça va être le jour des noces, ma chérie !» Et la reine est partie en chantant les louanges d'Eugénie jusque dans la chambre de son fils. Et le prince était, lui, très curieux de savoir à quoi ressemblait sa future fiancée. C'était une bonne travailleuse, certes, mais est-ce qu'elle avait de mignons petits pieds ? Est-ce qu'elle avait de grands yeux, de beaux cheveux ? La reine, oui, lui a dit que c'était une fort jolie fille et puis qu'elle filait tellement bien. Pendant ce temps-là, les trois femmes continuaient à s'activer et les pelotons de fil tombaient sur le sol les uns après les autres. Et bientôt, elles ont eu filé tout ce qu'il y avait dans les trois pièces. Elles ont rappelé à Eugénie sa promesse et elle les a fait sortir comme elles étaient entrées. Eugénie a attendu la prochaine visite de la reine. Quand la reine est arrivée, elle a vu que tout le lin avait été filé. Elle n'en revenait pas. Elle lui a dit « Mais ma chère petite, mais comme tu as eu vite fait, eh bien viens, je vais te présenter ton futur mari. » Elle a emmené Eugénie voir le prince et oh, quand Eugénie l'a vu, c'était le prince de ses rêves. Et le prince, lui, quand il a aperçu Eugénie, oh, tout de suite, il en est tombé amoureux. Et la reine parlait, elle parlait des noces et qu'il fallait faire la robe pour la mariée, et ceci et cela, la liste des invités. Et les deux jeunes gens se regardaient et ne se quittaient pas des yeux. Et puis Eugénie a retrouvé ses esprits et elle a dit « Voilà, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. J'ai 3 vieilles cousines. » Oh, elles m'ont élevée pratiquement parce que ma mère était toujours obligée d'aller travailler et moi je restais avec elle et c'est elles qui m'ont appris à filer. Et je voudrais bien les inviter à mon mariage et les faire asseoir à notre table si c'est possible. Oh, mais bien sûr, a dit la reine, mais si ce sont des bonnes fileuses, il n'y a aucun problème et bien sûr, invite-les. Et puis, tous les préparatifs ont eu lieu et bien sûr, la mère d'Eugénie a été invitée. Et on arrive au jour des noces. Les invités arrivaient avec de beaux habits. Les carrosses n'arrêtaient pas d'arriver et de décharger les nobles invités. Et puis, voilà que les trois vieilles femmes, celle avec le grand pied, celle avec la grande lèvre et celle avec le grand pouce, se sont présentées à la porte du château. Eugénie est allée les accueillir, elle les a serrées dans ses bras et puis elle est allée les présenter au prince. Et quand le prince a vu les 3 vieilles femmes, mais il se demandait comment sa femme qui était si jolie pouvait avoir des cousines aussi vilaines. Et celle qui avait le grand pied a dit au prince « Ah, mon prince, je vois que vous regardez mon pied. Vous savez pourquoi j'ai un si grand pied ?»« Non, a dit le prince, c'est de naissance. » Ah non, pas du tout. C'est à force d'actionner la pédale du rouet. Ah, je vois. Et vous, votre lèvre? Oh, moi, a dit la seconde, moi, ma grande lèvre, c'est à force de mouiller le fil en filant, mon prince. Ah oui, je vois. Et vous, votre pouce? Eh, c'est à force de taper pour couper le fil, mon prince. Ah, le prince a regardé son épouse. Elle a vu ses mignons petits pieds dans les chaussures de satin. Elle a vu sa lèvre délicatement ourlée. Elle a vu ses mains avec les doigts tout fins. Alors, il a serré sa femme contre lui et lui a dit, « Ma chérie, j'ai un grand sacrifice à te demander au nom de notre amour. Écoute, je sais que pour toi ce sera dur, mais s'il te plaît, donne-moi ta parole que tu ne toucheras plus jamais un rouet. » Eugénie intérieurement a souri, mais elle a dit à son mari, le prince, « Ah, écoute, mon amour pour moi, ah, ça va être un très grand sacrifice. Mais au nom de notre amour, je te donne ma parole que plus jamais de ma vie, je ne toucherai un rouet. » Et ce que dit l'histoire, c'est que Eugénie a tenu parole. Elle n'a jamais plus filé de sa vie et elle a vécu heureuse très longtemps aux côtés de son prince. Desire YouTube pour notre pause musicale. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers la fée Viviane, qui fait partie des enchanteresses, la fée Viviane et l'enchanteur Merlin. Il y aurait beaucoup à dire sur Merlin, mais ça ne rentre pas dans le cadre de cette émission. Alors ce que je vais vous raconter, c'est comment Viviane l'a pris à son propre piège et l'a enchanté pour son malheur ou pour son bonheur, je ne sais pas. Eh bien, pour vous présenter un peu ce personnage de Merlin, je vais vous lire la présentation qu'en fait René Barjavel dans son livre « L'Enchanteur ». Il y a plus de 1000 ans, vivait en Bretagne un enchanteur qui se nommait Merlin. Il était jeune et beau, il avait l'œil vif, malicieux, un sourire un peu moqueur, des mains fines, la grâce d'un danseur, la nonchalance d'un chat, la vivacité d'une hirondelle. Le temps passait sur lui, sans le toucher. Il avait la jeunesse éternelle des forêts. Il possédait les pouvoirs. Et il les utilisait que pour le bien. Il était pourtant fils du diable. Il les utilisait pour le bien ou ce qu'il croyait être le bien. Mais parfois, il commettait une erreur. Car s'il n'était pas un humain ordinaire, il était humain cependant. Pour les hommes, il était l'ami, celui qui réconforte, qui partage la joie et la peine, et celui qui donne son aide sans mesure et qui ne se trompe jamais. Pour les femmes, il était le rêve. Celle qui aimait les cheveux blonds le rencontrait coiffé d'or et de soleil, et celle qui préférait les bruns le voyait avec des cheveux de nuit ou de crépuscule. Elle n'était pas amoureuse de lui, il était trop beau, inaccessible, il était comme un ange. Seule Viviane l'aima, pour son bonheur, pour son malheur peut-être, pour leur malheur ou leur bonheur à tous les deux. Pour tous, il était l'irremplaçable. Celui qu'on voudrait ne jamais voir s'en aller, mais qui doit partir un jour. Quand il quitta le monde des hommes, il laissa un regret qui n'a jamais guéri. Et voici cette histoire. Donc Merlin vient d'avoir 30 ans et il parcourt ce qu'on appelle la Petite Bretagne à cheval. Et aux abords de la forêt de Brocéliande, il hésite. Il sait que là habite la fée Viviane. Il a envie de la connaître. Pourtant, il a peur de tomber amoureux et refuse de céder à ce plaisir-là. Il est intrigué par la fée. Ce jour-là, la curiosité l'emporte. Bon, il est confiant dans ses capacités à ne pas tomber dans les affres de l'amour. Il talonne son cheval et entre au cœur de la forêt. Et ce jour-là, Viviane flâne au bord du cours d'eau, près de la fontaine de Barenton. Merlin se dissimule pour l'observer et il est ébloui par sa beauté. Alors il se révèle à elle et il lui montre quelques tours qu'il sait effectuer. Il fait couler une rivière là où il n'y avait rien. Et il traverse à pied le lac sans être mouillé le moins du monde. Puis, avec une baguette de coudrier, il trace un cercle magique. Il vient s'asseoir à côté de la jeune fille et toute une compagnie de belles dames et de beaux messieurs apparaissent avec des musiciens qui jouent et tous dansent gracieusement. Des arbres chargés de fleurs aux parfums délicieux apparaissent et la fête dure tout le jour. Et puis, l'enchanteur dissipe l'illusion. Viviane est émerveillée. Elle demande à Merlin de lui apprendre quelques tours. Et lui, il y consent. Il lui apprend ses tours les plus faciles. Et puis, il doit partir pour s'occuper de la recherche du Graal. Elle revient. Et à chacune de ses visites, il enseigne de nouveaux tours à Viviane. Et leur amour grandit jour après jour. Jusqu'à ce que Viviane ait acquis presque la puissance de Merlin. Et ce jour-là, c'était un jour plein d'eau et de feuillage qui s'attardait aux fontaines. Merlin marchait derrière Viviane. Elle avançait. Elle lui avait demandé de mettre sa robe de forêt, celle qui commandait aux arbres, aux roches moussues et dont la bure mouchetait ainsi que le piolage d'un daim. Elle avait mis toutes les ruses de son côté, et il le savait. Il laissait les arbres effacer les traces de leur passage. Puis Merlin a soupiré. Il a soupiré sur tous ceux qu'il allait quitter, tous ces preux chevauchant à travers les vergers, enrubannés de printemps vers les tours de Camelot pour les noces d'Arthur et de Guenièvre. Il allait quitter un monde où n'était plus entendu. Il avait connu tant de rois dont les puissantes voix à jamais s'étaient tues, alors qu'à la branche d'aubépine chantait toujours le roi Tlet. Et Viviane marchait devant. Elle se disait que cette fois-ci, elle ne laisserait pas repartir. Elle portait un regard ému sur la taille de Merlin qui s'était courbée, sur son visage raviné, sur le flot de sa barbe blanche. Elle se souvenait de leur première rencontre devant le bouquet d'aubépine. Elle lui épargnerait la trahison de Guenièvre et de Lancelot. Elle lui cacherait le déclin de Morgane et l'agonie d'Arthur. Elle le tiendrait loin d'un monde que les fées, une à une, avaient fui. Quand ils sont arrivés au bouquet d'aubépine où avait eu lieu leur première rencontre, Viviane a dit à Merlin, « Seigneur, il y a un tour que j'ignore encore et que je brûle de savoir, c'est comment enfermer quelqu'un sans avoir recours à une tour, à un mur ou à des chaînes? Comment enfermer quelqu'un seulement par enchantement? Et que cette personne ne puisse retrouver la liberté qu'avec mon assentiment ?» L'enchanteur a secoué la tête et il a soupiré. Il a dit, « Dame, je devine vos pensées. Vous voulez m'emprisonner. Et je suis si bien sous l'emprise de mon amour pour vous qu'il me faut en passer par votre volonté. » Et Merlin a commencé ses explications et Viviane écoutait attentivement. Le bouquet d'aubépine était tout chargé de fleurs. Quand Merlin eut terminé ses explications et s'est allongé, Viviane a pris sa tête sur ses genoux. Elle l'a caressé tendrement jusqu'à ce qu'il s'endorme. Alors elle s'est levée. De sa guimpe blanche, elle a entouré le buisson. Elle a fait 7 tours. Puis elle a prononcé les paroles de l'oubli. Elle est revenue s'asseoir près de l'enchanteur. Elle a pris de nouveau sa tête sur ses genoux. Elle a attendu son réveil. Quand Merlin a ouvert les yeux, il a cru être dans une tour. Il a cru qu'il était allongé sur la plus magnifique couche où il ait jamais dormi. « Dame, dit-il, vous m'avez trahi. Et si vous ne restez pas avec moi, puisque vous seul avez le pouvoir de détruire cette tour. Chers doux amis, je serai souvent là et rien ne s'opposera plus à nos plaisirs, dit Viviane. Elle a tenu sa promesse et Merlin n'est plus jamais sorti de la forteresse où elle l'avait enfermé. Mais y était-il heureux? Je ne sais pas. Et voici l'histoire d'une autre fée, une autre enchanteresse qui s'appelle Mélusine. Il y avait jadis, il y a très longtemps, en Écosse, un roi qui s'appelait Elinas. Et un jour où il chassait par la forêt, il s'est approché d'une fontaine et là, il a vu la plus magnifique dame qu'il ait jamais aperçue de sa vie entière. Et il l'a saluée humblement et lui a dit, « Belle dame, je désire plus que tout votre bel amour. Si vous me promettez de ne jamais chercher à me voir quand je relève de couche, que vous me prenez pour épouse, eh bien, j'accepte, a dit la fée qui s'appelait Précine. » Oh, bien sûr, Elinas a donné sa parole et ils se sont mariés. Et bientôt, la fée a attendu, non pas un enfant, mais 3 enfants. Elle a accouché de 3 filles, Mélusine, Méliore et Palestine. Et il se trouve que le fils d'Elinas, qui était veuf, a été très jaloux de cette naissance et il a poussé son père à entrer dans la chambre où Précine était en train de baigner ses 3 filles nouveau-nées. Elinas est entré, l'interdit était transgressé et la fée a disparu en emmenant avec elle ses 3 filles. Elle s'est réfugiée dans l'île d'Avalon où vivait sa sœur, la fée Morgane. L'Avalon, l'île des pommiers. Et chaque matin, Précine emmenait ses filles sur la plus haute montagne de l'île, la montagne fleurie, d'où elle pouvait voir loin, très loin, jusqu'à l'Écosse. Et elle disait, « Mes filles, vous voyez, c'est là-bas le pays où vous êtes nées, le pays où vous auriez dû grandir si votre père n'avait pas trahi sa promesse. » Et tous les jours, elle répétait cela, et 16 années ont passé. Le jour de leur anniversaire, de leur 16 ans, Mélusine a dit à ses sœurs qu'il fallait qu'elles se vengent et qu'elles vengent leur mère. Elles ont enfermé Elinas dans une montagne d'où il ne sortirait plus jamais. Elles croyaient accomplir les desseins secrets de Précine, mais leur mère n'a pas du tout été contente de l'initiative. Au contraire, elle en a été fort courroucée et elle les a punies. Melior est devenue gardienne d'un épervier dans un château d'Écosse. Palestine a eu pour châtiment de garder le trésor de son père dans le mont perdu. Et Mélusine, de qui était venue cette initiative malheureuse, a été frappée d'une malédiction. Désormais, lui a dit sa mère, tu seras serpente du nombril jusqu'au bas du corps tous les samedis. Mais si tu trouves un homme qui veuille bien te prendre pour épouse et promette de ne jamais te voir ce jour-là, s'il ne te découvre jamais, eh bien alors ta vie suivra le cours naturel de la vie d'une femme et tu mourras normalement. De toi viendra une noble et très longue lignée qui accomplira de belles et grandes prouesses. Mais si jamais tu te sépares de ton mari, sache que tu retourneras au tourment d'avant sans fin. Mélusine, chargée de cette malédiction, est partie errer par les grandes forêts à la recherche de son destin. Et c'est là, dans une forêt près de la fontaine de la soif, appelée aussi fontaine des fées, non loin de Poitiers, qu'elle va rencontrer Raymond. Raymond, un preux chevalier, à qui ce jour-là il venait d'arriver un malheur terrible, il était parti à la chasse avec son oncle et par mégarde il l'avait tué d'un coup d'épieu. Désespéré, ne sachant que faire, il errait par la forêt. Et au matin, près de la fontaine des fées, elle a vu cette apparition, Mélusine. Et elle lui a souri, elle lui a dit qu'elle savait ce qui lui arrivait et qu'elle pouvait l'aider s'il acceptait de l'épouser et lui donnait sa parole de ne jamais chercher à la voir le samedi. Ébloui par sa beauté, Raymond a accepté aussitôt. Et avant de le quitter, elle lui a dit tout ce qu'il devait faire. Suivant les conseils de Mélusine, Raymond est retourné à Poitiers et il a fait la surprise en apprenant la mort de son oncle. Mais personne ne l'a soupçonné. Puis, à la rencontre suivante, entre Raymond et Mélusine, la fée lui a appris comment obtenir de grandes terres et un fief digne de lui. Raymond est allé demander au nouveau comte de Poitiers, en récompense de ses services, autant de terres qu'il pouvait en enclore dans une peau de serre. Et c'est la même ruse que Didon avait employée pour la fondation de Carthage. La peau, découpée en très fines lanières, a pu encercler un domaine très important. À la troisième entrevue, Mélusine a demandé à Raymond d'inviter à leurs noces le lundi suivant le comte de Poitiers et toute sa cour, ainsi que la famille de Raymond. Elle voulait des noces célébrées avec un faste extraordinaire. Et le jour des noces, les invités arrivaient et tout le monde murmurait devant la beauté de la mariée. On disait que c'était une princesse venue de très loin, mais personne ne savait exactement d'où elle venait. Et Raymond ne répondait à aucune question, et la mariée non plus. Le soir, la jeune mariée a mis en garde son époux. Soyez sûr que si vous tenez votre promesse, vous serez l'homme le plus puissant et le plus honoré de tout votre lignage. Dans le cas contraire, vous et vos héritiers connaîtront une lente décadence. Et la terre dont vous serez le seigneur ne sera plus jamais tenue tout entière par aucun de vos héritiers. Raymond a renouvelé sa parole de ne jamais chercher à voir sa femme le samedi. Et ils ont vécu heureux. Il était très amoureux de sa fée. Et Mélusine bâtissait des châteaux et des abbayes qui apparaissaient presque comme enchantement. Très rapidement, elle a donné à son époux 10 enfants, 10 fils, dont les 8 premiers étaient marqués au visage par une tare physique. Il y en a un qui avait les yeux qui n'étaient pas à la même hauteur l'un que l'autre, l'autre qui avait une espèce de patte de lion sur la figure, etc. Mais ils étaient de vaillants combattants et ils ont grandi et ils sont devenus extrêmement puissants. Ils ont conquis des royaumes, le royaume de Chypre, le trône de Bohême, d'Alsace. Ils ont rendu partout le nom de leur père, le nom de Lusignan illustre. Et de longues années se sont écoulées ainsi. Et Raymond était un seigneur extrêmement riche et puissant. Et avec Mélusine, ils étaient heureux, ils étaient toujours amoureux. Et le frère de Raymond était très jaloux de cette prospérité. Il se rendait bien compte que son frère était beaucoup plus puissant que lui-même. Un samedi, il lui a rendu visite. Il n'avait pas choisi le samedi par hasard. Il a demandé à voir sa belle-sœur. Raymond s'est lancé dans des explications embarrassées. Or, le frère a dit « Ah, mon frère, il y a une rumeur qui court que votre femme vous fait déshonneur et que le samedi, elle s'en va forniquer avec d'autres. Mais bien sûr, je n'en crois pas un mot. » Et soudain, le doute s'est instillé dans le cœur de Raymond. Oui, il avait tenu sa parole, mais en lui-même, il se demandait quand même qu'est-ce que sa femme pouvait bien fabriquer tous les samedis. Et les paroles de son frère ont avivé ce doute. Il a tiré son épée et s'est précipité jusqu'à la porte derrière laquelle Mélusine s'enfermait tous les samedis. De la pointe de son épée, il a fait un trou dans la porte. Et il l'a vue se baignant dans un grand bassin. Il l'a vue serpente depuis le nombril jusqu'au bas du corps. Et là, elle avait cette énorme queue de serpent avec laquelle elle battait l'eau et qu'elle la faisait jaillir jusqu'à la voûte de la chambre. Et Raymond a poussé un cri, il a ouvert la porte, il a dit « Mon amour, je viens de vous trahir à cause de la parole fourbe de mon frère. » Et adieu, adieu, mon cœur. Adieu, ma joie. Mélusine a sauté sur l'appui de la fenêtre. Elle a poussé une plainte déchirante. Elle s'est jetée dans les airs. Elle est devenue une serpente longue de 15 pieds. 3 fois, elle a fait le tour du château avant de disparaître. Et Raymond ne l'a plus jamais revue. Mais la nourrice de ses 2 derniers fils l'a entendu revenir sous sa forme de mère pour allaiter ses enfants pendant la nuit. Elle n'a rien osé lui dire. Raymond, désespéré, s'est fait ermite. Et selon la légende, chaque fois que le château de Lusignan doit changer de seigneur ou qu'un héritier de sa lignée doit mourir, la fée serpente apparaît toujours auparavant sur les tours de la forteresse. Alors, ce sont des histoires un peu sérieuses que je vous ai racontées et peut-être on va finir sur une note humoristique. On peut se poser la question si les sorcières sont des fées, mais il y a bien la fée Carabosse, une histoire de sorcière. C'est l'histoire d'une sorcière très vieille et très moche qui habite une maisonnette au fond des bois. Elle passe tout son temps à préparer ses potions et ses mixtures. De temps en temps, elle va cueillir des ingrédients dans la forêt. Puis, On regarde par la fenêtre, mais il ne se passe pas grand-chose sur le chemin qui entoure sa maison, à part son chat qui va des fois se promener. Il y a rarement des gens, parce que les promeneurs n'osent pas trop s'approcher de la maison de la sorcière. Elle n'a pas une réputation de bonté dans le pays. Et voilà qu'un après-midi, à 14h, la sorcière jette comme ça un petit coup d'œil par la fenêtre, et là, elle n'en croit pas ses yeux. Sur le chemin, un jeune homme, un prince, magnifiquement habillé, ses cheveux qui brillent au soleil. Oh, la sorcière en laisse tomber sa louche dans la marmite. Son cœur se met à battre, son sang monte aux joues. Elle tombe amoureuse immédiatement de ce beau jeune homme. Alors toute la journée, en pensant à lui, elle s'active. Elle va cueillir des ingrédients, elle court les bois, elle coupe, elle hache, elle mixe, elle touille, elle ajoute, elle goûte, elle remue. Et au petit matin, c'est prêt, elle a tout fait cuire, elle met en bouteille à plein chaudron d'élixir pour rajeunir. Le jour suivant, en fin de matinée, elle avale une bouteille d'élixir. Ah, ben c'est amer. Alors, une gorgée d'élixir, elle mange un carré de chocolat, et puis de nouveau, une gorgée d'élixir. Et à mesure qu'elle boit l'élixir, elle rajeunit. Sa taille devient fine, ses cheveux soyeux, ses traits délicats. Quand elle a fini sa bouteille d'élixir, la sorcière s'est transformée en une vraie beauté. Juste à temps, avec deux toiles d'araignée, un peu de poudre de crapaud et des étoiles filantes filées, elle se fait une belle robe décolletée juste ce qu'il faut. Elle s'habille, elle cueille une rose blanche dans son jardin, la trempe dans son filtre d'amour et l'épingle à son corsage. Puis elle s'assied sur le banc devant sa porte et elle attend. Et juste attend, parce que voilà le beau jeune homme qui arrive. Et il la salue, il vient s'asseoir à côté d'elle, ils discutent et très vite, il semble qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils échangent un chaste baiser. Puis, la sorcière prend congé en vitesse, elle rentre chez elle, le beau jeune homme s'éloigne aussi rapidement. Et il était temps parce que, à peine elle est rentrée dans sa maison, que 5 minutes après, elle est redevenue la vilaine moche sorcière. Le lendemain, même chose, ça continue comme ça, une bouteille d'élixir pour rajeunir, des mots d'amour, quelques baisers, et puis des adieux rapides. Et le beau jeune homme ne se plaint jamais. Et il dit en souriant « Adieu ma belle, à demain !» Et il s'éloigne à vive allure sans se retourner. Après quelques semaines, la sorcière juge que le moment est venu. Et lorsqu'elle est avec son amoureux, elle lui déclare qu'elle veut l'épouser. Il accepte avec enthousiasme. Les noces sont fixées au lendemain. Le lendemain, la sorcière avale 3 bouteilles d'élixir. Ça lui donne des crampes d'estomac, mais il faut bien ça pour être heureuse. Et dès que les deux amoureux vont se marier à la mairie du village voisin, puis ils se dépêchent de retourner à la maisonnette de la sorcière au fond des bois. Dès qu'ils sont entrés, la sorcière a préparé une tisane. Elle va à la cuisine chercher les gâteaux aux pâtes de mouche qu'elle a fait la veille. Et là, l'élixir cesse d'agir et elle redevient la vieille sorcière, toute moche, avec son nez crochu, sa peau toute ridée, pleine de verrues. En la voyant, son jeune mari la fixe et puis elle éclate de rire. Et il lui dit « Ah, ton élixir ne vaut pas tripette, ma chère. Le mien est quand même un peu plus puissant. » Et sous les yeux de la sorcière, avec un grand fou rire, le magnifique jeune homme se transforme en un vieux sorcier, au nez crochu, aux dents gâtées et à la peau plus ridée que du papier froissé. » Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne les références de nos contes. Les Trois Fileuses, qui est un conte de Grimm, conte dans Conte pour les enfants et la maison, aux éditions Corti. Pour les histoires de Merlin, il y a le récit de Robert de Boron, aux éditions Flammarion. Le numéro de la Grande Oreille, numéro 83, qui est consacré à l'enchanteur, si vous voulez en savoir plus sur ce personnage fascinant. Et dans la Grande Encyclopédie des Fées de Pierre Dubois aux éditions Eubek, où il y a beaucoup de choses sur les fées en général et sur Viviane en particulier. Pour Mélusine, Mélusine et le Chevalier au Cygne de Claude Lecouteux aux éditions Imago et les Fées au Moyen-Âge de Laurence Arflankner aux éditions Honoré Champion. Bien, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles histoires.